Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et nous, on va passer à la prochaine partie. C'est un source internet. C'est parti. Source internet dans lequel on revient sur une actualité de la semaine et comment ne pas revenir sur le rachat de Twitter, tout simplement, par Elon Musk. Cette phrase, enfin vraiment, je l'aurais dit il y a deux semaines, vous auriez été en mode,
oui.
Arrête les champignons peut-être. mais aussi sur un détail dont étonnamment j'ai vu très peu de monde parler, alors que pour moi c'est un des plus importants. Mais d'abord, un petit point contexte déroulé des événements mi-mars. Donc Elon Musk qui rachète 9% de Twitter, qui devient le premier actionnaire assez vite. Il indique vouloir prendre plus de participation. Conseil d'administration, dans un premier temps, verrouille les possibilités. Mais, à un moment, devant les pépettes que le monsieur est capable d'aligner, à savoir 43 milliards, ce qui est quand même pas mal, finalement, ils alignent. Lui, il aligne et il rachète Twitter, tout simplement. À savoir que Jack Dorsey, l'ancien président, était plutôt favorable au je ne savais pas, qui a démissionné. Il était plutôt favorable à ce que soit Elon Musk qui reprend. Et donc, il a fait plusieurs annonces. Je vous fais un micro résumé. Petit 1, il veut sortir Twitter du marché public, de la bourse. Petit 2, des nouvelles règles de modération pour devenir la plateforme de la liberté d'expression à travers le monde, selon ses dires. À la sauce plutôt tendance libertarienne américaine. Il veut lutter contre les bots, que tous les humains soient des vrais humains. Des nouveaux outils, notamment le fameux bouton Edit. Ça fait plaisir.
Un truc qui est assez rigolo, c'est que, alors, de ce que j'ai lu comme article, il semblerait qu'en fait, il ait déposé 11 milliards cash sur la table pour l'offre de rachat et qu'il ait fait un effet de levier avec ses actions Tesla.
Ah, marrant.
C'est-à-dire qu'il a pris, en général, tous ces trucs, tu sais, t'as des grosses banques qui font des fusions, acquisitions, des machins. Il a déposé 11 milliards d'actions Tesla et il a fait de l'effet de levier dessus pour obtenir le reste de l'argent, pour avoir 44 milliards pour acheter la boîte.
C'est facile à sortir quand même.
Oui, mais ce qui veut dire que si l'action Tesla baisse de trop, il se fait liquider. Et l'action Tesla baisse un peu. Et donc du coup, j'ai regardé, parce que j'ai pas encore trouvé les chiffres, mais je le cherche, le point auquel il se fera liquider sa position, parce que ce serait, écoute-moi bien, à mourir de rire.
C'est vrai, c'est drôle.
Voilà, c'est ce petit anecdote comme ça.
Imagine la clim qui se prend.
Énorme clim.
Mais il aurait peut-être... je pense qu'il a prévu, non, enfin,
c'est un risque calculé.
Il a dû y penser.
Mais c'est un risque, c'est-à-dire qu'effectivement, t'as dû le vier, donc...
Le dernier point qui, justement, sur lequel je pense que peu de gens sont revenus, alors que c'est pour moi un des trucs les plus passionnants, c'est que l'algorithme de recommandation YouTube et donc de structuration... Oula, je reprends. C'est la fatigue. Le dernier point qui pour moi est le plus passionnant dans ce qui a été dit, c'est effectivement le fait que Twitter pourrait devenir open source, notamment son algorithme de recommandation. Et pour moi... C'est vraiment, vraiment dingue. Toi, Hardisk, qui est un peu notre grand tweetos devant l'éternel, ça a été quoi ta réaction quand t'as vu tous ces événements-là?
Plein de choses. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça veut dire. Rapidement, pour rebondir sur le point que t'as donné, donc, il veut open-sourcer en fait, les algos de recommandation. L'idée, c'est de dire les algos de recommandation des réseaux sociaux, c'est un peu une boîte noire. On va avoir une transparence vis-à-vis du public par rapport à ça. Trois choses. De 1, rendre open source les algos de recommandation, ça ne veut rien dire. Parce que tu as l'algorithme de recommandation de contenu et le dataset qui nourrit cet algorithme. Il faut savoir que c'est quasiment que du machine learning et du coup, c'est entraîné sur des jeux de données gigantesques.
Ça peut dépendre des
endroits. Donc si tu as le code... Oui, c'est vrai.
Genre YouTube, oui, les recommandations, la page d'accueil, oui.
Je pense que c'est pareil pour Twitter. Tu penses qu'il n'y a pas de dataset?
C'est pas sûr. Franchement, c'est pas sûr que ce soit peut-être full généré par du machine learning, la décision de quel tweet est affiché ou pas. Ce serait à voir.
En tout cas, voilà, ma première réflexion, c'était de me dire si on n'a pas le jeu de données, bon, tu vois, on ne fait pas grand-chose.
Ouais.
Le deuxième truc, c'est un algorithme de recommandation populaire open source. Pour moi, ça veut dire qu'il n'y a plus d'algorithme de recommandation. C'est-à-dire que le principe même de ces algos, c'est d'être une boîte noire. Si jamais demain YouTube me met en open source leur algorithme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais engager un dev et on va essayer de reverse engineer le truc comme des porcs. Parce que, évidemment, en fait, tu vois.
Alors, on a un contre-exemple tout à l'heure. Ça va être intéressant.
Alors, ça m'intéresse. Ouais, si j'ai tort là-dessus, tant mieux, tu vois.
Ouais.
Et donc, je me dis, est-ce que c'est pas contre-productif? Tu vois.
Ça te ferait marrer, toi, Tiffany, de pouvoir jeter un petit œil comme ça, tu vois, dans le code de l'algo Twitter?
Mais carrément, je pense que c'est ultra intéressant, comme tu dis. Mais après, je pense qu'il y a d'autres choses que juste du machine learning, mais c'est vraiment qu'une hypothèse.
Ouais.
Mais je pense que ça doit se baser aussi sur pas mal de choses, comme la temporalité. Donc, il doit y avoir certaines règles sur aussi l'engagement des personnes. Donc, je pense que ça a aussi à voir avec, à l'instant T, tu postes un tweet. Et le nombre d'interactions qu'il y a sur un court laps de temps doit générer aussi une certaine... modifier une certaine façon...
Pour moi, ça peut vraiment être relativement manuel, hein, honnêtement, la façon dont ça fonctionne.
Ouais, je pense qu'il y a quand même pas mal de règles qui peuvent être, à hard-coder. Puis peut-être qu'en plus de ça, il y a un peu de machine learning.
Dans certaines zones, par exemple, genre, souvent, c'est les recommandations en fait, qui sont sur lesquelles il y a du machine learning... Ou vraiment tu...
Mais c'est pour ça que je prends souvent cet exemple, parce qu'en fait, il y a un PDF de Google qui est sorti, je crois, en 2020, qui est un white paper, un papier de recherche, où ils expliquent exactement, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Google facilement, exactement comment marche l'algo de recommandation YouTube. C'est écrit, genre. Mais le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'on peut pas s'en servir pour gamifier le système et pour tricher?
Pour le hacker.
Voilà, déjà parce qu'on n'a pas le jeu de données sur lequel il est entraîné, et on n'a pas les données exactes. C'est-à-dire qu'en gros, ils te disent que une vidéo est recommandée si c'est, je simplifie, hein, si c'est s'il y a tant de watch time, et en fait il y a un score différent selon différentes données, combien de pouces bleus, le watch time, le machin, sauf qu'on ne sait pas quel score est donné à tel truc.
Ouais, c'est ça, il manque
et on ne sait pas qu'est-ce qui est plus important, le watch time, le nombre de vues dans la première heure, le nombre de machin truc, mais on sait que c'est un agrément de tout ça.
Ouais, le poids
on n'a pas le poids, exactement, on n'a pas le poids de ces différents trucs, et le poids est changé. Il change l'algorithme tout le temps, tu vois, pour tester et optimiser.
Ce qui m'a fumé quand on a appris cet événement, c'est qu'il y en a au bureau qui ont découvert Twitter un petit peu. Notamment.
Oui, je n'ai pas découvert Twitter, ce n'est pas vrai. Mais
t'as
Twitter...
internet à la maison?
Oui.
D'accord.
Un modem.
Un
joli modem. j'ai pas découvert Twitter, mais c'est vrai que moi, c'est pas des trucs que je suis sur quasiment aucun réseau social. Ça m'intéresse assez
grand
peu.
Grand bien t'en fasse.
Oui, non, mais je le vis plutôt bien. Mais là, du coup, depuis que je suis là, je me suis créé un Twitter juste pour ici, tu vois, en gros. C'est le dev amicode, c'est, enfin, quand je tweet, c'est des tests de gamins ou des
conneries comme ça. Et t'as tweeté bonjour, on t'a levé ta grand-mère directement et...
Non, mais avec moi les gens sont toujours super sympas, etc. Voilà. Mais j'ai un exemple précis de ce qui moi me sidère, et j'ai du mal ma journée n'arrive pas à démarrer après ça, vraiment. Là, il y a quelques semaines, il y a Michou qui s'est fait hacker sa chaîne et qui a été supprimé. Et il met un tweet genre, ah bah ma chaîne a été supprimée. Il y a Thibaut InShape, qui n'est pas forcément quelqu'un que j'adule ou quoi. Vraiment, je suis très neutre sur cette personne, qui répond genre, courage, j'espère que tu vas la retrouver.
Tweet sympa.
Jusqu'ici, rien de... Voilà. Il y a des gens qui répondent à Thibaut en disant, il y a des trucs plus graves que ça, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de courage pour ça, il y a des gens qui se battent en Ukraine.
J'adore.
Mais moi, je lis ça, moi j'ai du mal à passer au-delà de ça. Moi je suis là, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Mais il y a une chanson là-dessus de Mister V, là. C'est genre chômage. Je suis au chômage.
Non mais je sais
c'est,
pas, mais...
c'est réel, hein.
Non mais moi ça me sidère, tu vois. C'est pas comme si on avait donné un choix, tu vois. C'est pas, il a pas dit tout le courage du monde doit aller à Michou. Non, enfin.
Moi ce qui me fume le plus dans ce sujet, c'est que c'est pas tellement l'histoire, parce qu'honnêtement, bon, Twitter, tu vois,
Daily Twitter,
c'est que juste. Tu sais, il y a Thiel qui arrive le matin, il nous raconte ça, il est abattu.
Mais oui.
Et juste voir Thiel découvrir le concept de Twitter, ça me fume.
Ouais, parce que moi j'ai toujours entendu, Twitter c'est la poubelle d'internet à ciel ouvert. C'est toujours ça que j'ai entendu, mais j'y suis jamais allé, ça me... Voilà.
Mais je pense qu'il y a des contre-arguments, je sais que toi t'es plutôt Twitter ou... LinkedIn.
J'essaye. En fait, c'est plutôt que par rapport à mon métier, je devrais être beaucoup plus présente que ça sur Twitter. Alors, je m'oblige, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à avoir une activité.
Mais est-ce que du coup, tu penses qu'il y a un usage intéressant qu'il peut y avoir de Twitter quand même?
Oui,
c'est pas
oui,
juste de la
bien
poubelle.
Sûr. Non, bien sûr. Enfin,
je vais pas dire ce que j'ai pas dit.
Si tu avances, que c'est nul.
Non.
Je pense que effectivement, on peut communiquer, de façon très efficace sur Twitter. Et c'est pas. C'est pas anecdotique que Elon Musk l'ait racheté. Je pense qu'il peut s'en servir comme levier de communication. Ça peut avoir un impact vraiment très important sur pas mal de choses si c'est utilisé intelligemment. effectivement, il y a aussi pas mal de junk aussi. Mais surtout, c'est un outil de communication. Ça, c'est enfin, aujourd'hui, c'est une arme ultra puissante, en fait.
Et je vais dire un truc, aussi dans la technique, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Twitter, beaucoup de gens qui peuvent nous intéresser, des références en développement, cybersécurité, etc. Et ben, ils utilisent beaucoup ce canal-là, quoi. Donc, c'est bête de s'en priver totalement.
Mais c'est ce genre-là que je suis. Hein. Et le tweet en question, c'était recommandé par Twitter. Je vais pas m'en remettre. Jamais je passerai au-delà, ça me sidère trop.
Justement, sur l'aspect du fait que rendre l'algorithme open source, c'est pas forcément anodin, il y a un autre exemple d'une grande plateforme qui a son algorithme de chronologie qui est open source.
Twitch.
Devinez lequel.
Si Twitch, c'est open source.
C'est facile.
C'est très simple.
C'est open source maintenant. Parce que,
oui, bien joué.
Reddit, c'est open source.
Et oui, le saviez-vous?
Eh ben pas du tout.
L'algorithme de Reddit. En fait, il fut un temps où Reddit était entièrement open source.
Ça oui, mais je sais pas.
Ça a changé
aussi
depuis 2017. Et honnêtement, on est quasiment sûr que il a pas été touché. Genre ce qui détermine l'ordre d'affichage des posts, on est presque sûr que ça n'a pas été modifié.
Alors comment ça marche?
Et alors justement, il y a plein de trucs qui sont intéressants d'aller regarder là-dedans pour se dire, ah bah tiens, comment un algo peut influer sur à quoi ressemble, quelle est l'ambiance d'un réseau social. C'est vachement intéressant. Un des premiers trucs qu'on peut aller voir sur le repo GitHub, qui est toujours up d'ailleurs, où il n'est pas mis à jour évidemment, on peut voir il y a 5, 6, 7 ans. Un des trucs qui est intéressant, c'est de voir que, comme tu disais tout à l'heure Tiffany, la date de sortie, elle joue. Évidemment, si tu sors un post, le fait qu'il soit tout neuf...
Plus il est récent, oui.
Exactement, ça augmente tes chances que ce soit haut dans le classement. Et c'est assez violent, en fait, avec Reddit. C'est-à-dire que là, tu peux voir au cours du temps, au bout de 5, 10, 11 heures, 100 heures, à quel point ça va influer sur son score de ranking. Et c'est fou de voir que après, genre, 50 heures, t'es plus ou moins dead. C'est-à-dire que ton post, s'il n'a pas pris entre-temps... Ça sert à rien.
C'est-à-dire que à gauche là, le score de ranking, c'est les 3000 et tout ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais
en gros c'est un score arbitraire pour pour classer les postes.
Ok.
Et ce score, il dépend énormément de la date de sortie.
Donc c'est hyper intéressant. Ouais. Ça veut dire qu'en termes d'AB testing, tu peux faire un bot qui va tester différents titres toutes les 50 heures si jamais le post n'a pas marché.
Et enfin, en faire un nouveau. Et
Tu sais
qu'après, c'est mort, il n'a pas pris.
Incroyable. Voilà,
c'est terminé. Et là, c'est testé sur 100 upvotes et 2 downvotes.
Exactement. Mais vous allez voir pourquoi c'est important le nombre de bots et le nombre de downvotes dans Reddit. Il y a une échelle logarithmique en fait sur les upvotes. C'est-à-dire que, en gros, les 10 premiers upvotes, ils comptent autant que les 100 suivants, qui comptent autant que les 1000 suivants. Ce qui veut dire que tu vois, c'est ce qu'on voit ici, entre un poste qui fait 20 upvotes et un poste qui fait 100 upvotes, il n'y aura pas une énorme différence. Ça, l'objectif, c'est quoi?
C'est hyper intéressant.
Le but, c'est que tout le monde ait un peu une chance. Parce que sinon, si ton poste il fait 3000 upvotes, tu sais que plus personne ne va jamais te dépasser, tu vois, tellement t'es haut. Donc le fait d'appliquer une échelle comme ça logarithmique fait que même si tu ne fais pas masse poste.
Oui. Et du coup, un poste nouveau qui fait 20 upvotes très vite, ça veut dire, contenu intéressant.
Mais du coup, ça veut dire que si tu postes un truc et que t'envoies un texto à tous tes potes pour upvoter d'un seul coup, ça pourrait
faire
monter ton poste.
C'est ça. Par contre, les 20 suivants vont peut-être jouer un peu moins et ainsi de suite.
Incroyable.
Donc, tu peux pas totalement hacker le truc non plus. Et du coup, je trouvais ça vachement marrant de se dire, effectivement, en fait, ces règles-là, quand ils pensent à t'être reposé, ok, je veux monter un Reddit, quelle gueule j'ai envie que ça a, ok, il faut que ce soit récent, j'ai envie que tout le monde ait un peu sa chance, tu arrives naturellement
à
sa règle mathématique. Et il y a un truc hyper intéressant sur Reddit qui est particulier à Reddit, c'est l'effet des downvotes. Il est en fait méga fort. C'est-à-dire que ça, c'est la différence entre un post qui a 100 upvotes, 0 down, et un post qui a 1000 upvotes, 900 down. Ils ont le même score de ranking. C'est-à-dire que
Le coup, non, il n'est pas important, le downvote.
Eh bien, justement, c'est-à-dire que tu pourrais te dire, mais ce deuxième post sur Twitter, par exemple, un truc qui est très clivant, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est très clivant. Il y a 1000 personnes qui kiffent, 900 qui détestent. Sur Twitter, ça pète. Genre, c'est vachement valorisé par l'algorithme.
Ah oui.
Alors que sur Reddit, ce que ça te montre, c'est qu'en fait, ton post, il se fait déglinguer. Il vaudra autant qu'un truc qui n'est pas du tout engageant, mais que positivement.
C'est pas clivant.
Oui, c'est ouf, en vrai.
Mais du coup, Reddit ne met pas en avant les controverses.
C'est ça.
alors que Twitter le fait.
Et donc ça veut dire qu'on peut régler ça algorithmiquement en fait.
Et totalement.
Pourquoi régler? Parce que ce qui est clivant aussi, est-ce que c'est pas aussi intéressant d'en parler?
Et oui, mais c'est, ouais. En fait, c'est juste ça. Tu dépeins en gros à quoi va ressembler, quel type de réseau tu crées. Et ouais. C'est ça qui est fascinant. Et c'est sur Reddit, ce qui va super marcher, enfin très bien fonctionner, c'est des photos de chats.
Mignon. Des trucs, ouais, que tout le
monde. Il y a aussi d'autres choses.
Ouais.
Mais ça, sur Twitter.
Alors que tu vois, un chat qui tient des propos racistes, par exemple.
Sur Twitter, c'est banger. Non, mais c'est assez marrant, effectivement, de voir l'implication que de bêtes algorithmes peuvent avoir.
C'est hyper intéressant. Merci, Mickaël.
Bah non, mais je trouve que c'est aussi un exemple de réseau qui peut paraître énorme et pourtant où on connaît un petit peu les ficelles. C'est pas habituel en vrai.
Très intéressant. Ouais.
Donc, hâte de voir ça sur Twitter.
Hâte de voir comment ça marche. Enfin, si jamais, du coup, ils le mettent tel quel en open source.
Non, par contre, ce qui va être dur à assumer pour Twitter, c'est qu'ils vont devoir assumer en public qu'ils shadowbannent des gens.
Ils le font
en fait, tout le monde le sait. Il y a des gens, des ex de Twitter qui l'ont déjà dit. Il y a eu même des screenshots leakés d'un panel admin de Twitter où on voyait le truc shadowban, où vraiment on sait qu'il y a des comptes qui veulent baisser leur visibilité.
C'est quoi un shadowban exactement?
Alors un shadowban, c'est quand tu vas bannir quelqu'un d'un réseau social ou d'un chat, mais la personne n'est pas au courant qu'elle est bannie. C'est-à-dire qu'il peut poster des tweets, mais son reach est algorithmiquement baissé.
Ah.
Parce qu'on veut que cette personne soit moins vue.
Et pour quelle raison une personne serait shadowban du coup?
Bah, des trucs, ça peut être des trucs légitimes, des propos nazis.
Ok.
Enfin, non, ça c'est illégal. Mais tu sais ce que je veux dire? C'est une sorte de modération en fait, ouais. Tu vois. Mais après, ça peut être utilisé pour des trucs illégitimes aussi selon l'administrateur du site, tu vois. Donc,
le problème, c'est pas le shadowban, c'est qui le fait et pourquoi.
Voilà, ouais. C'est pour ça que c'est controversé, ouais. En fait.
C'est quoi les règles?
Ce qu'on conseille à-t-il, c'est plutôt de s'inscrire sur Reddit d'ailleurs.
Bah, j'arrive.
Mais du coup, non, ils vont devoir assumer qu'il y a du shadowban dans la recherche
peut-être
Twitter.
Peut-être que ça va être enlevé du coup par Alan d'ailleurs.
Peut-être que ça va être enlevé par Alan.
Bah, c'est plutôt d'ailleurs dans sa philosophie, je pense.
Ouais.
D'enlever ce genre de choses, puisque lui, ce qu'il disait justement, c'était comme tu disais, comme il est très libertarien, ouais. Il va vouloir faire en sorte que les gens puissent s'exprimer plus ouvertement et ça veut dire pas de shadowban, je pense. Et...
On va voir.
Ça, c'est positif ou négatif.
C'est un truc qui, par exemple, c'est sur Facebook depuis longtemps, ça.
Je suis pas allé sur Facebook depuis 2007.
Quand t'as une page et qu'il y a des gens qui mettent des commentaires, par exemple, tu peux dire, ou si t'as fait un post, je crois, tu peux dire que tu veux que ce commentaire, en gros, c'est pas shadowban le terme, mais je sais plus ce que c'est.
Plus visible.
Ouais, en gros.
Ah oui, on peut cacher. Voilà. Oui,
tu vois ce que je veux dire.
Instagram coup, aussi.
Ok, bah tu vois, fin, au final, c'est pas.
Tu peux shadowban un user.
Parce que tu supprimes pas le commentaire, tu le bannes pas du truc, mais par contre, la personne n'atteint plus rien, quoi.
Alors, il paraît que les gens qui font des enquêtes de type OSINT, et ben ils sont souvent shadowban, apparemment, sur Twitter.
Ah ouais?
Ouais, peut-être. Ouais, c'est
marrant. Je connais pas les gens de cette commune-là. Je savais pas du tout.
Ouais. Bref, c'était un sujet assez chaud, mais dans tous les cas, qui reste très ouvert. On sait pas encore exactement ce qui va se passer. Je trouvais intéressant de faire le petit
parallèle. Est-ce que Elon va se faire liquider? Je pense que.
Ça, c'est marrant quand même.
En vrai, j'ai un peu envie de faire un bot Twitter qui s'appelle Est-ce que Elon va se faire liquider? Qui tweet tous les jours le point de liquidation et le point de l'action.
Alors, encore mieux, tu peux faire un appel à si quelqu'un veut le faire.
Il y a un dev.
Il y a de grandes chances que ce soit fait, franchement. Merci beaucoup, Till, d'être venu nous parler de GABA.
Merci.
J'espère que tu as apprécié
très fort
cette expérience.
Ouais, de ouf.
Bah, franchement, c'est quelque chose quand même. On peut le dire. Non, mais c'est quelque chose de venir sur Underscore. Ça peut être un peu stressant et tout.
Bah, je peux déborder sur le runner de l'émission et raconter une micro-anecdote.
Vas-y.
Vous avez failli me faire passer dans Underscore mon troisième jour ici.
Oui, c'est vrai, putain.
Parce que je suis arrivé le lundi et le mercredi, il y a eu le leak de Twitch, justement. Et ils m'ont dit, genre à midi, ils m'ont dit tu oublies tout ce que tu fais. Tu. DL le truc de Twitch et tu retrouves tout ce que tu peux et ce soir t'es dans Underscore. Moi j'étais perdu dans ma vie et heureusement il y a Defend Intelligence qui est arrivé, qui était sur Paris
et qui avait commencé à travailler,
beaucoup plus expert que moi en plus sur ce sujet là donc il a pris ma place, mais du coup troisième jour vous m'avez mis dans la sauce, quoi.
Voilà. T'as stressé 3 secondes.
Je te vois, ok, d'accord.
C'est pour vous dire l'ambiance qu'on a.
Bah, ils m'ont dit, Mathieu et Mickaël sont arrivés, ils ont dit, bon, si ce soir tu passes, c'est bon pour toi. Je te vois, oui. D'accord.
Mathieu Rouspette. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu.